Bonjour à tous, bienvenue sur RMC Pêche, votre podcast Pêche. Déjà la 8e émission et pour cette 8e émission, on a un casting, un plateau de haut vol. Messieurs, dames, presque 3 générations de stars de la pêche représentées aujourd'hui. Bon, on va en vieillir certains et en rajeunir d'autres pour que ça colle. Avec Jean Desquet tout à l'heure en duplex, ce grand champion qui nous a fait rêver dans les années 80-90 sur ses cassettes VHS de pêche. Alors notre invité RMC Sport aujourd'hui, lui, est trop jeune pour avoir connu les cassettes VHS. Théo Gonnet, alias The French Fisherman, tu vas bien ?
Super.
Alors certains disent que c'est le nouveau Cyril Choquet. On en saura un petit peu plus tard, un peu plus tard. Alors lui, il a connu les VHS de pêche et aussi les DVD en la personne de Sylvain Legendre. Salut Sylvain, tu vas bien ?
Salut, ça va, merci.
Alors Sylvain nous vient de la Principauté of Haute-Savoie. Encore une fois, encore un invité qui nous vient de la montagne. T'as fait bon voyage ?
Oui, très bon.
Ça me fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors au sommaire de cette émission, la pêche aux infos, je m'en fous pas. La concurrence déloyale d'AliExpress et de Temu. La grande tombola de l'équipe de France... des équipes de France de pêche à la mouche pour financer leurs mondiaux. Ensuite, on parlera dans le grand débat, la pêche au cou fait-elle encore des émules ? Et puis on retrouvera Alexis Riem qui nous fera découvrir son département d'adoption, le Lot, que Sylvain connaît super bien. On vous révélera le mot de la fin de cette histoire de barre de 1,5 m de barre dans bluff ou pas bluff, faut pas se leurrer. Dans l'atelier, on parlera l'heure de surface avec Ludovic Bigot qui sera en duplex de Cherbourg. Et puis au bout du fil, on aura un auditeur. Allez, on attaque tout de suite avec la pêche aux infos. Alors avant d'attaquer la pêche aux infos, on va quand même présenter un petit peu nos invités et notamment Théo. Théo, tu nous viens d'où ?
Je viens de la Gironde. Je suis au sud de Bordeaux, dans la campagne à Sauterne exactement, pour ceux qui voient un petit peu...
Alors nous, ça nous parle, le Sauterne. Dis-nous, tu travaillerais pas dans quelque chose de liquide par hasard ?
Il y a un petit peu de ça, ouais. Mais je suis dans une famille de viticulteurs, donc mes parents sont viticulteurs de génération en génération. Et donc je bosse aussi un petit peu là-dedans, dans cette partie vin, etc.
D'accord. Et quand tu fais pas du pinard, du coup, en parlant crûment, qu'est-ce que tu fais ? D'où vient cette passion de la pêche ?
Eh bien, c'est la passion de mon père. Donc j'ai eu la chance qu'ils me transmettent cette belle passion qui nous réunit là tous aujourd'hui. Et il a toujours en fait, lui, pêché en eau douce, mais beaucoup en mer.
C'est un pêcheur au gros quand même.
C'est un pêcheur au gros, ouais. C'est lui ce qu'il aime faire et là où il a toujours voulu aller. Et en fait, il m'a amené dès que j'avais 8-9 ans, il m'a amené un petit peu à droite à gauche avec lui sur des voyages. Et j'ai poussé un petit peu le truc sur ces dernières années. J'ai réussi à faire de plus en plus de voyages, un petit peu professionnaliser le contenu, un petit peu ce que je faisais. Et là, depuis 2 ans, avec Romain Blot, on fait un duo. On essaie de sortir des productions sur les voyages, des films un petit peu travaillés pour nous régaler, puis régaler les gens et essayer de faire les meilleures productions possibles sur ce voyage.
Alors, si vous ne connaissez pas Théo, The French Fisherman, sur les réseaux, alors pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'est 60 000 abonnés sur Instagram, 10 000 abonnés sur YouTube avec des milliers et des milliers de vues. Alors, tu disais, tu travailles avec Romain Blot, qui est un vidéaste émérite il est du Mans, il me semble. Lui, il a travaillé longtemps avec Corda, il a fait des vidéos qui sont sublimes, donc tu n'as pas non plus trouvé le plus manchot pour t'accompagner.
Je l'avais repéré.
Alors, du coup, ça s'est venu comment cette envie de partager via des vidéos? En fait, tu t'es dit, tiens, on va joindre l'utile à l'agréable, ou ça permet aussi de financer aussi
aussi en fait c'est un tout, mais ça a commencé simplement moi quand je devais avoir 14-15 ans. C'était un petit peu le boom d'Instagram, enfin ça faisait un petit moment déjà, mais je me suis dit, j'aimerais bien avoir un espèce d'album, un endroit où je peux retrouver un petit peu toutes mes prises, mes plus beaux poissons, etc. Et de fil en aiguille, on m'a toujours dit, putain, mais tu devrais faire des vidéos sur les voyages, c'est incroyable ce que tu fais. Mais bon, entre faudrait que tu fasses des vidéos et faire des vidéos, il y a un monde. Mais je me suis dit, putain, j'aimerais bien faire des vidéos, mais j'ai pas envie de... Ce qui est très bien, attention, hein, mais j'ai pas envie de faire des vidéos à la GoPro ou j'aimerais bien montrer un petit peu plus. Et j'ai réfléchi au fur et à mesure, au fil des années, j'ai réussi à affiner un petit peu... un business model, quoi, on va dire. C'est-à-dire un modèle qui fait que je puisse du coup, grâce aux marques, parce que c'est ça aujourd'hui qui me permet de faire tous ces projets là financer un petit peu ces vidéos et pouvoir faire toujours plus de vidéos dans des destinations plus incroyables. Et que l'idée, c'est que justement ces vidéos-là, ça fonctionne grâce aux marques en fait. C'est tout un système, donc c'est pour ça qu'il y a des marques partenaires qui me suivent, sur lesquelles on travaille ensemble, et c'est tout un écosystème autour
Alors,
de ça.
Alors, allez voir ces images, allez voir ces vidéos, elles sont sublimes, et Théo est quand même, adore se faire mal, parce que toi, ta spécialité, ouais. c'est quand même les ferrages horizontaux et sécher les poissons, parce que c'est vraiment, notamment les grosses GT, t'aimes bien vraiment le physique, quoi. Physique.
Alors, c'est pas forcément ce que la plupart des pêcheurs vont rechercher, mais moi, ce que j'aime dans la pêche, ma partie préférée, en fait, c'est les combats. C'est-à-dire, il y a plein de gens, même pêcheurs en mer, qui vont aimer les attaques en surface et tout ça. Bien sûr, j'en suis friand, hein, on va pas se mentir. Mais moi, ce que j'aime, c'est la difficulté et c'est aller...
C'est ce qu'il y a après la touche.
Ouais, c'est ça. C'est un petit peu, en fait, c'est une fois qu'on a piqué le poisson, il y a cette partie combat. Et en fait, selon le poisson, selon sa combativité, parce qu'on vraiment, on parle de ça, hein, on parle de combativité chez un poisson, ça va être plus ou moins dur. Et il y a des espèces qui sont connues pour être assez opiniâtre et dur, on va dire, à battre, comme la GT, comme le thon, comme ces espèces-là. Et moi, j'aime en fait me dire, bon, bah ok, là, j'ai été meilleur, j'ai battu le poisson, je l'ai battu rapidement, donc j'ai pu le relâcher dans de bonnes conditions. Et c'est ça, moi, qui va vraiment me... C'est là où je prends le plus de plaisir à la pêche.
Ah, parce que moi, la pêche au thon, mon plaisir, c'est de prendre la touche en surface. Ouais. Après, c'est juste 40 minutes de souffrance, si je pouvais passer la canne.
En fait, c'est tout un art. Moi, je fais beaucoup des parallèles avec les sports de combat, parce qu'il y a tout un art dans le... Il y a énormément de techniques dans les combats. Bien sûr, il y a de la force, parce qu'à un moment...
Tu te prépares physiquement quand même. T'es jeune, mais comparé à nous, t'es un peu plus tôlé, on va dire.
Je ne sais pas, mais
ça
mais
se dégrade plus tard.
Ouais, ça, tu auras un âge, ça va. Tu vas pêcher assis après.
je ne ferai pas de commentaire. mais non, bien sûr, oui, je me prépare physiquement. J'ai des entraînements vraiment pour ça, pour la pêche. Je fais énormément d'analyses vidéo de mes combats pour essayer de voir, corriger. Je prends aussi. J'ai la chance justement de faire des voyages, donc de rencontrer des mecs qui sont très pointus. Parce que c'est souvent des mecs hein, qui font ça, qui sont guides de pêche, un petit peu partout sur la planète, prendre des conseils, affiner, etc. Donc c'est tout un art, l'art du combat de poissons. Et moi, c'est ça que j'aime bien.
Ouais, t'arrives à financer, parce que ces voyages-là font rêver, ça coûte un pognon fou.
Vite, ça fait vite des grosses sommes, ouais.
T'as fait déjà combien de pays à peu près, là? Parce que t'as quel âge?
J'ai 24 ans.
Et t'as fait combien de pays déjà pour la pêche?
Je pourrais pas dire.
Quinzaine peut-être ?
Non, plus que ça. Je pense que ça doit être de l'ordre de 25, je pense peut-être.
D'accord.
Faudrait que je regarde, mais après, il y en a où je reviens beaucoup. Je vais beaucoup aux États-Unis, c'est un gros terrain de jeu pour la pêche. Puis ils ont une culture un petit peu différente.
C'est un business là-bas, c'est un art de vivre. Il y a
exactement.
Un mec sur 5 qui pêche. Donc
complètement. C'est pas du tout la même atmosphère. Mais oui, j'ai beaucoup de chance. J'ai réussi aussi avec le travail à développer ça et puis à créer justement ces partenariats avec les marques qui ont fait que maintenant elles me font confiance. Mais pas mal de voyages. Ah oui, et puis beaucoup d'organisation là-dessus, etc. Non, c'est...
D'accord, alors on parle de gros, justement. On a Sylvain, mon compère d'émission Impossible, avec nous. Sylvain, c'est quoi un peu ton actu? Alors, t'es dirigeant de la société Fish & Chip, d'un site de vente en ligne,
ouais,
c'est ça?
Ouais, c'est ça. Je fais du e-commerce. J'ai un site de vente de matos de pêche.
Consultant pour une marque aussi.
Consultant pour Fox également, donc je suis bien occupé.
D'accord. Et aussi pas mal de compétitions. Tes actus, on a vu que tu avais gagné quelques compétitions.
Ouais, je suis sur une bonne série là. J'ai gagné le YPC et puis le FC Fight. Donc les deux majeurs filmés de la scène de compète, quoi. Donc voilà.
D'accord, t'as joué à l'Euro Million, parce qu'en ce moment, t'as un peu la main chaude quand même.
Non, j'y pense sérieusement.
Il y avait de l'argent à gagner le week-end dernier. Et là, en plus, t'as tourné le dernier épisode du FC Fight, c'est ça?
On a tourné le FC Fight la semaine dernière, ouais.
D'accord, à la Madine.
À Madine.
Et ça a été?
Je peux pas le dire.
Non.
Bon. Oui, ça s'est bien passé globalement.
Alors, ce qui nous intéresse avec Sylvain, c'est justement le fait qu'il ait un site en ligne, puisque dans la pêche aux infos, on va parler tout de suite dans l'actu. Alors, la pêche aux infos, messieurs, c'est assez facile, c'est je m'en fous pas, c'est vraiment un peu dans l'ADN de RMC. Aujourd'hui, on va parler de la concurrence déloyale d'AliExpress, et puis de Temu, et tous ces prix cassés où on peut s'équiper pour quelques euros, au détriment un peu de la planète. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? On s'en fout pas? On va commencer par Théo, parce que je pense que, parce que Sylvain a des,
ouais,
a des choses...
J'ai un avis bien tranché sur
les yeux injectés de sang.
tu veux que je détaille mon propos ou
bah
je m'en
ouais,
fous,
voilà,
je m'en
ouais,
fous pas.
Donne-nous ton avis là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, notamment le matos en exo, en mer, ce genre de choses, ça coûte
bien
extrêmement
sûr.
Cher.
Ça coûte vite beaucoup d'argent. Il y a deux points. Moi, d'un côté, effectivement, mauvaise chose, quand on voit toutes les marques françaises, européennes, etc., les produits qu'elles développent, c'est un peu bateau ma réponse. Mais si tu veux, ça fait une concurrence directe. Tu retrouves les produits quasiment les mêmes, si tu veux, sur des copies. Donc, d'un côté, ça fait une concurrence qui est énorme parce qu'on ne peut pas rivaliser avec l'industrie chinoise. Enfin, c'est... D'ailleurs, certains produits, d'ailleurs beaucoup même, sont fabriqués en Chine. Mais d'un autre côté, ça va mettre... parce qu'il y a des marques qui vont faire justement énormément de marge sur des produits assez simples qui sont pour la plupart faits en Chine. Et donc du coup, ça remet un petit peu les pendules à l'heure. C'est-à-dire, on en connaît toutes des marques qui se sont un petit peu gavées sur les pêcheurs, etc. Cette mondialisation-là, en tout cas avec la Chine, remet un petit peu... tout le monde au même niveau, je ne sais pas si je peux dire ça, mais en tout cas, ça peut sur certains produits où des mecs se gavaient. Attention, c'est bien hein, de se gaver, tout le monde, il faut gagner de l'argent aussi, mais ça permet justement de se retrouver un petit peu plus d'équilibre.
Mais justement, tu ne penses pas que c'est aussi au détriment de qui crée les leurs, qui les dessine, qui les design? C'est pas ceux qui forcément qui les fabriquent en masse production et qui après les vendent comme ça en... Est-ce que c'est pas...
Je ne connais pas exactement tous les dessous, si tu veux, de comment ça se passe, si c'est des copies pures ou si c'est, par exemple, parce que tu as des marques qui font fabriquer en Chine et ensuite les usines, elles leur font un petit peu un doigt et hop, elles font leur production de leur côté, elles vendent direct sur les plateformes. Je sais, ça dépend en fait un petit peu du modèle, parce que si c'est, je sais pas, un créateur de l'heure français, il fait fabriquer en France et il retrouve son produit qui a été copié en Chine, là effectivement, t'as envie de les tuer les mecs. C'est logique. Je sais pas.
On va en demander à Sylvain parce que là,
t'es beaucoup plus dedans, tu vends du matériel.
Il est dedans dans tous les sens du terme.
J'en pâtis un peu parce que c'est effectivement une concurrence déloyale. En fait, ça attaque un système qui s'occupe en même temps de la promotion de la pêche et du pas seulement du business pêche mais du loisir pêche en général. C'est-à-dire que ça court-circuite des marques qui vont financer ce type d'émission, qui vont financer de la communication, des vidéos, les marques qui te payent par exemple, qui sont pour que tu offres aux gens tes vidéos de voyage, etc. Ces marques-là, elles ont ce budget de com parce qu'elles gagnent de l'argent avec ces produits-là. Quand elles sont court-circuitées comme ça, ce système-là, il est plus valable. Ça, c'est un côté. Il y a aussi un côté déloyal dans le sens où ça se fait avec la complicité totale de l'État, et notamment à cause des accords postaux.
C'est-à-dire t'en avais parlé dans une
voilà,
émission.
Moi, j'envoie un hameçon BKK à The French Fisherman. Le petit colis que je vais envoyer, il va me coûter grosso modo 7 euros hors taxe. Quand tu commandes ton hameçon BKK ou une copie de ton hameçon BKK sur AliExpress, sur Temu, bien souvent tu vas même pas payer de port.
C'est clair.
C'est-à-dire que le gouvernement chinois, je pense, sponsorise en partie les expéditions, enfin l'export. C'est remis à la poste française qui a, à cause des accords postaux, l'obligation de le livrer gratuitement entre guillemets à Théogonais.
Leur taxe sur les petits colis, en fait, ça.
Alors je me suis pas intéressé trop à la question parce que si je regarde ça de près, je me couche sous le train
à la gare de Lyon. T'as pas senti une baisse des ventes, une augmentation de tes ventes parce que les produits chinois étaient un peu taxés.
Absolument pas. Par contre, je sens qu'il y a des produits iconiques du marché qui sont largement utilisés par les pêcheurs qui se vendent assez peu. Ça veut dire que il y a un autre point d'entrée sur des copies ou même sur des originaux qui viennent d'autres pays et qui vendent moins cher. Faut pas oublier quand même qu'on est le pays le plus taxé du monde, hein, et que du coup, même si on dit ils se gavent, alors il y a peut-être quelques sociétés qui font des marges sympas.
On est d'accord, c'est pas.
Mais dans l'ensemble, on est tous.
C'est pas le business le plus facile.
Je pense que, alors je m'en fous pas pour le coup, c'est ça ma réponse. et effectivement, il y a un truc déloyal. Après, moi, on ne peut pas en vouloir aux gens d'acheter le même produit moins cher, c'est clair. Mais on peut en vouloir à notre système, à l'État notamment, qui favorise ce genre d'importation un peu sur le côté.
On va parler aussi
si on veut leur vendre du pinard, on est obligé d'accepter de convoyer leur colis gratuitement.
C'est clair.
Tu vois.
On ne vend pas de pinard à la Chine.
Ça y est. Vous ne touchez pas au pinard. Ils ont des AOP, AOC, ça va, ils se sont protégés.
Il y a bien des gants de boxe qui traînent.
Il y a des plastrons et tout pour
Par contre, si tu veux me lui attacher les mains dans le dos, ça m'arrangerait quand même.
ça va se terminer en RMC Fight.
C'est ça.
Est-ce que tu as déjà, on va parler qualité, parce que c'est vrai, souvent les produits chinois sont décriés sur le fait que bah, voilà, ils sont piètre qualité, c'est des mauvaises copies. Alors, toi qui pêches au gros, pour le coup, où tu peux pas te permettre d'utiliser un hameçon foireux ou un hameçon avec un armement foireux, moi je l'ai déjà vécu. Bon, ça s'est bien passé par une opération du Saint-Esprit. Est-ce que tu as déjà utilisé des produits chinois? Est-ce que tu as pu remarquer des baisses de qualité?
Alors, quand je commençais à pêcher, je commandais mes leurres souples sur AliExpress.
Du coup, on va acheter un sauterne sud-africain. Du coup,
ouais, tu peux. Mais effectivement, tu vois que c'est pas la même qualité. Tu vois que le plastique il est plus rigide, etc. Tu vois que c'est pas cher, mais tu comprends pourquoi. J'ai jamais justement.
Dans tes pêches de bourrin, t'as jamais osé.
Non, tu peux pas. Déjà qu'avec le matériel qui est top.
T'es pas joueur, hein. Franchement, t'es pas joueur.
Ouais, mais je te dis, déjà qu'avec le matériel qui est développé dans de bonnes conditions où tout va bien, t'as des problèmes. Donc, je m'amuse pas du tout. Non, pour le coup, je m'amuse pas du tout à jouer de zéro.
Et puis sur un voyage qui coûte aussi cher, peut-être tu vas toucher un poisson
gigantesque.
Exactement.
Record,
si tu veux, j'en fais souvent la promotion parce que souvent je vais avec des voyages, avec d'autres gens, etc. Ils me demandent des conseils et je leur dis tu mets tellement, parce qu'au-delà de l'argent, c'est quand tu prévois un voyage un an à l'avance, que tu as mis une partie de tes économies, etc. Est-ce que tu as vraiment envie de risquer de perdre le poisson que tu es venu chercher pour avoir économisé 100 balles là, alors que tu as déjà dépensé je sais pas combien de milliers d'euros de l'autre côté? Moi, sur le principe, je trouve ça un peu ridicule, mais après je comprends, enfin des fois on est obligé de couper les coins pour arriver jusqu'au bout, mais en tout cas sur la pêche exo, on peut pas trop se permettre.
C'est valable aussi sur une pêche en local, où au final t'as quand même pris ta bagnole, t'es allé sur le spot, des fois t'as tracté un bateau, t'as tout mis en place et t'as intellectualisé le truc pendant des jours parce que c'est ta passion, t'y vas le week-end. Est-ce que tu hypothèques tout ça pour économiser un petit peu?
Oui, sans valeur.
D'accord, achète, moi je trouve ça.
Surtout sur les leurres exo.
Achète 3 leurres originaux plutôt que d'en avoir 10 de copies.
Je suis totalement d'accord. C'est surtout ce que ça te prend mentalement. Ce que tu y penses. Tu te fais tes sessions dans ta tête 12 000 fois et tu perds un poisson parce que t'as pris un anneau brisé AliExpress et du coup il s'est ouvert parce que t'as eu le brochet de ta vie devant toi qui est reparti.
Ouais, bien sûr. Il y a suffisamment de doutes à la pêche pour pas en rajouter. En fait.
Exactement.
Parce que pour revenir à par rapport à ces sites chinois, pour l'instant, jusqu'à maintenant, les gens étaient un peu réticents parce qu'il y avait aussi des délais de livraison. Sylvain est réputé pour livrer, tu commandes avant 15h, il te livre le lendemain matin chez toi. Mm-hmm. C'est vrai que le pêcheur, il aime bien avoir son truc. Ce qui nous sauvait un peu, c'était que tous ces sites-là, souvent avant c'était livré sous 3-4 semaines.
Ouais,
là, ils commencent à créer des entrepôts aux quatre coins de l'Europe, notamment dans les pays de l'Est.
Ce qui leur permet de passer outre les droits de douane.
Exactement. Et ils vont pouvoir livrer hyper rapidement. Ça fait peur quand on est boss d'un business comme le tien.
On peut avoir peur de tout en fait. Moi, je choisis de pas regarder trop sur les côtés et d'essayer de. On bosse sur des choses que eux ne peuvent pas fournir. C'est-à-dire que d'accord, les gens qui appellent chez nous, ils ont un pêcheur au bout du fil qui va savoir répondre parfaitement à leurs demandes, etc. On joue sur le conseil, sur la com. C'est pas Temu qui va leur offrir des vidéos gratuites sur YouTube pour expliquer comment utiliser les produits, comment attraper plus de poissons, etc. Donc on essaie de jouer avec nos forces. C'est pas le prix, c'est tout. Mais par contre, la rapidité, le conseil...
Bien sûr, puis tu les fidélises avec du saucisson. Tu vas pouvoir les fidéliser avec une bouteille de pinard. Pour toute commande chez Sylvain, vous allez avoir une bouteille.
On va faire un truc des paquets.
Bon, on passe à une deuxième actu. C'est une grande tombola 2026 au bénéfice des équipes de France Mouche. Alors, c'est organisé par le pôle français sportif de haut niveau. Parce que eux, les pêcheurs à la mouche, sont haut niveau. Ils ont des titres. Nous, on n'a pas le statut de
haut niveau depuis des années. C'est les meilleurs de tous les pêcheurs français.
Et en fait, cette grande tombola a pour but de collecter les 60 000 euros qu'ils ont besoin pour envoyer les 7 équipes de France aux championnats internationaux en 2026. Donc Senior Mouche, Senior Europe, les jeunes U19, les jeunes U24, les féminines, les masters et le 5 Nations.
Messieurs, vous en pensez quoi? 60 000, 23 euros pour payer la coupe de cheveux de Greg Jugaret.
23, également. C'est ça, il y a les 23 euros du barbeur pour les frisettes de Greg. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez de cette tombola? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que vous pensez qu'on devrait être un peu plus, plus soutenu par des instances ou par d'autres donateurs?
C'est un petit peu comme tous les sports où il y a pas grand monde qui s'y intéresse, malheureusement. Donc ça draine pas de vues, ça draine pas d'argent. Et donc on est obligé d'avoir des systèmes comme ça pour qu'on puisse financer et que ça fonctionne. La pêche en France, ça intéresse des gens, mais pas tant que ça. Donc forcément, il n'y a pas tant d'argent que ça. Et la pêche à la mouche, c'est encore plus spécifique, donc ça paraît logique. Mais c'est la même chose avec des sports dont la plupart des gens connaissent même pas l'existence, et on se retrouve. Est-ce que c'est une bonne chose? Forcément, s'ils peuvent participer justement à la compétition, que ça finance.
Ce serait intéressant de savoir d'ailleurs si, je sais pas, l'équipe de France de fléchettes
a aussi besoin de fonds pour
financement ou s'ils courent après des fonds. C'est quand même un gros loisir, la pêche. Il y a 1,5 million de pêcheurs en eau douce au moins.
Peut-être deux,
pas loin en mer.
Donc,
je pense qu'il y a. C'est pas une question de nombre de pratiquants, je pense.
Non, c'est pas une question de nombre de pratiquants, mais c'est une question de visibilité. C'est comme forcément le foot masculin va générer plus d'argent que le foot féminin parce qu'il y a plus de gens qui ont un vrai intérêt là-dessus. C'est la différence un peu aussi avec pêche aux États-Unis, pêche en France.
Bien sûr. Ouais, non, on n'est plus du tout dans les mêmes philosophies. Là-bas, c'est d'une tradition.
Moi, je rêve d'un système où les marques sont obligées de reverser 1, 2% de leur chiffre annuel pour financer ce truc-là.
Ça pourrait. Fin...
Et les shops d'ailleurs.
Tu fais déjà un peu, toi. Enfin, c'est
à ma toute petite mesure, mais si tout le monde avait cette obligation pour, ne serait-ce que pour être représenté politiquement, pour envoyer des gens.
Bien sûr, faire du lobbying, ça peut être aussi important.
Ça, ce serait canon, mais on n'en est pas là, je crois.
Moi, ce que je veux dire, c'est que ça passe aussi par individuellement. Chacun donner le maximum de soi pour donner de la visibilité
bien
au
sûr,
sport.
Bien sûr.
Ça fait si tout le monde était à
ce
fond.
Que tu fais très bien.
C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait aujourd'hui sur une antenne nationale.
Ça met en lumière en fait le sport. Et sauf que si tout le monde dans une équipe, par exemple, se met à fond sur, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, les réseaux sociaux. Et ben, il y a beaucoup plus de gens qui voient, beaucoup plus de gens qui s'y intéressent. Ça draine plus d'argent et automatiquement, c'est plus facile de financer tout ça, quoi.
En attendant, il faut donner à l'équipe de France.
Exactement. Alors, pour cette grande tombola, il y a des séjours de guidage dans les Dolomites, il y a des séjours en Bosnie, il y a une nuit en gîte. C'est pas précisé si c'est avec Greg Juglaret, nuit dans un refuge. Il y a du matos et il y a aussi des mouches à gagner aussi, réalisées par nos champions. Donc, tous, allez donner. J'ai donné ce matin sur cette grande tombola. On passe tout de suite à l'heure des pêcheurs. Mais si on est chaud, c'est le débat. Alors, attention, dans le débat du jour, nous recevons une sommité de notre sport qui nous a fait rêver quand nous étions tout jeunes. C'est monsieur Jean Desquet. Bonjour Jean.
Bonjour, bonjour.
Jean, on est très honoré de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors Jean, c'est plus de trois titres de champion du monde de par équipe, 6 podiums individuels. C'est le monsieur qui a fait la morse 3000. Gardons quand même. Ça va bien ?
Ben ça va bien, oui. Bon, des titres, j'en ai eu le double, c'est-à-dire 6, quoi. Au niveau des championnats du monde, puisqu'il y en a eu 3 en senior, 1 en club, 1 en master, 1 en vétéran. Malheureusement, je suis passé vétéran cette année et je vais participer dans 15 jours au championnat du monde en Croatie, dans la cité d'Ivanek, sur des petits plans d'eau. Donc voilà, j'ai passé ma vie. Et
on ne l'arrête plus. Ça va finir par être des sportifs les plus titrés de France, je pense.
Ah bah pas loin, et puis c'est sûr qu'il est inarrêtable. Il était déjà au top.
Mais j'ai connu Sylvain à ses débuts. Il faisait partie d'une équipe sans sas à Normandie.
Et puis à Toulouse, où je t'ai vu pour la dernière fois, Jean, c'était il y a plus de 20 ans, je crois.
Oui, oui, mais je m'en souviens. Je n'ai pas encore complètement Alzheimer, donc je m'en souviens.
Non, mais Jean, il est là depuis toujours. Et c'est en grande partie grâce à lui que je suis rentré dans la pêche. Donc, c'est... voilà. Donc,
zut.
Pas de chance. Mais il est là depuis toujours et il est encore là aujourd'hui, c'est fou.
Alors Jean, justement, si on t'a invité aujourd'hui, c'est pour nous parler de la pêche au cou. Est-ce que cette technique en fait fait encore des émules et est-ce qu'il n'y a pas un peu une baisse d'engouement pour cette technique traditionnelle qui, à mon avis, à mon sens, la base de la base, on devrait tous commencer par là. Qu'en penses-tu ?
Je suis d'accord avec toi. La pêche au cou, c'est la mère de toutes les pêches. Parce qu'en fait, quel est le pêcheur qui n'a pas commencé au cou ? Il y en a, mais il y en a très peu. La pêche au cou, déjà, si elle est représentée dans le monde entier, c'est un gros flotteur rouge et blanc qui est mal équilibré, qui est à la surface. Vous montrez ça dans n'importe quel pays, à n'importe quel continent, tout le monde va vous dire c'est de la pêche au cou. C'est de la pêche. Donc, la pêche au cou, à la base, c'est déjà quelque chose qui est universel. même si c'est pratiqué quand même beaucoup plus sur les pays asiatiques ou européens que sur les pays américains, quoi.
On le voit maintenant en Chine, ils ont même développé des techniques avec des cannes en fibre de verre qui permettent de sortir des poissons monstrueux, quoi.
Tout à fait. Et en Chine, ils pêchent au cou. Hein. La pêche au cou, c'est on s'assied, comme tu disais, c'est pas aussi technique que ce que va faire Théo, et aussi physique, je dirais. Maintenant, je mets quand même quiconque au défi de venir passer 5 heures au bord de l'eau en tenant une canne de 13 mètres. Ils vont voir que c'est pas si facile. Voilà, que c'est pas si facile que ça. Sylvain, il en sait quelque chose parce qu'il a commencé comme ça. Et c'est physique aussi. Faut savoir utiliser.
Alors justement, on disait tout à l'heure, maintenant les gens, ils passent, quand ils veulent se mettre au carnassier, ils démarrent la pêche, ils achètent directement un bateau, les carpistes, les gens se mettent à la pêche, ils achètent directement une tente, une batterie, sans passer par la pêche au cou. Jean, selon toi, qu'est-ce qui fait que cette pêche au cou là qu'on a tous connue, il y avait des concours dans tous les villages quand on était gamin, qu'est-ce qui a fait que cette pêche au cou là, elle est passée un petit peu à la trappe ces 20 dernières années, 10 dernières années, notamment en France. Qu'est-ce qui a fait ? Est-ce que c'est l'attractivité, un peu de renouveau, de la jeunesse ? C'est quoi qui a fait que ça a manqué de quoi à un moment donné ?
Alors peut-être que ça manquait de médiatisation à un certain moment pour faire reconnaître la complexité aussi, parce que pour faire de la pêche au cou, c'est très simple. Une canne de 3 mètres télescopique, une petite ligne, un petit hameçon, un asticot, un pinky, 500 grammes d'amorce, il y en a assez. Et on va prendre du plaisir, on va prendre plein de poissons. Donc c'est quand même très simple et très basique, mais après peut-être que la compétition qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliquée, puisque quand on passe d'un endroit à l'autre, d'une place à l'autre, sur le même parcours, déjà, c'est pas pareil. Il se tient pas à chaque endroit, dans une rivière ou dans un plan d'eau ou dans un canal, les mêmes poissons. Donc, on est obligé de les attirer avec l'amorce, etc. Mais la complexité de tout ça peut faire que ça a pu rebuter certains. Maintenant, moi, je vois, quand tu prends un gamin qui a jamais été à la pêche, tu l'amènes, tu lui donnes une petite canne de 3 mètres, tu mets un asticot au bout, tu jettes une boulette d'amorce, le flotteur s'enfonce, il prend un petit gardon de 10 cm, une ablette, un goujon ou une carpe, ben il a les yeux qui brillent. Donc automatiquement, ça plaît toujours et il faudra pas grand-chose pour le relancer au plus haut niveau. En France, ça a certainement baissé un petit peu les pêcheurs au cou parce qu'il y a plein de techniques de pêche au cou qui ont dévier certains pêcheurs au cou classiques à la canne.
Oui, on l'a vu il y a 15 jours avec la pêche au feeder. Moi, j'habite dans le Nord, je suis dans le paradis du carpodrome. Tous les carpistes à la batterie sont tous passés à la canne, à la carpe au cou. C'est vrai que ça a aussi redonné un peu de vigueur, notamment dans le Nord, dans la pêche au cou. Alors, ils prennent des carpes, c'est une pêche qui est un peu différente. Mais justement, tu parlais de remettre un peu de jeunesse là-dedans. En ce moment, il y en est en plein dans les phases finales des JFT, donc du Junior Fishing Tour, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ces JFT coup justement, donc il y a un circuit Carnat et coup, ces JFT là justement elles vont sûrement apporter, là ça fait déjà de la deuxième année, ces JFT là elles vont apporter aussi un peu de renouveau, et elles vont aller chercher un peu les talents de pêcheurs au coup dans les départements, non?
Oui, alors ça c'est formidable. Je veux féliciter la FNPF, son président M. Roustan et Maurice Lebranchu qui a lancé cette idée-là. Jean-Luc Hernec au niveau de la FFPS et Benoît Lefebvre qui s'occupe de ça. Il m'avait contacté déjà l'an dernier pour aller lors de la remise, etc., faire une conférence, etc. J'avais pas pu parce qu'on était au championnat du monde en même temps. À mon grand regret, j'avais dû refuser à Jean-Luc Hernec le fait d'y aller. Bon, cette année, ça a lieu à Fillé-sur-Sarthe au mois de juillet. J'ai fait en sorte de... Je serai présent pour voir tout ça. Je trouve que c'est formidable de relancer des jeunes là-dedans, de leur donner cette envie-là, surtout que ça a quand même un sacré succès. Il y a eu beaucoup, beaucoup de participants et je crois que ça va augmenter encore parce qu'il y a des départements qui s'en étaient pas trop occupés. Mais voyant le succès, il y a beaucoup de monde qui y va. Et je donne rendez-vous à tous les gens qui veulent voir comment ça se passe le samedi 18 juillet 2026 à Fillé-sur-Sarthe, dans la Sarthe.
Alors Jean, c'est marrant que t'en parles parce que en plus on a Sylvain avec nous. Parce que je sais que Sylvain sera aussi là-bas pour les finales JFT pour la partie carnassier, mais qui se font le même jour que la partie coup, il me semble. Où tu seras aussi animateur pour la partie conférence pour la partie carnassier. Et puis en plus, tu es un pêcheur au cou à la base, parce que tu as tiré des vaseux, comme on dit.
J'ai des vaseux, du fouillis et tout ce que tu veux. J'ai largement donné dans ce truc-là. J'ai adoré cette pêche. C'est la pêche au cou, c'est effectivement la base de tout. Et ça t'apprend tellement sur le poisson, sur l'eau, sur sa dynamique, sur tout ça. C'est génial cette pêche et tout le monde devrait commencer par ça.
Et toi Théo, t'as commencé, t'en as fait un peu en Gironde quand t'étais petit ou t'as attaqué tout de suite les marins, les marlins avec papa?
Non, pas du tout, j'ai commencé là-dessus et j'ai continué à pêcher jusqu'au cou, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et je prends toujours, c'est marrant, mais pour revenir, tu reviens vraiment à la base, t'as ce bouchon et il y a quand même une adrénaline quand tu vois le bouchon qui part. Et tu sais pas si tu vas avoir un gardon, un carassin, une carpe, tu vas te faire exploser. Moi, j'ai pêché longtemps là-dessus, j'ai pris beaucoup de plaisir à pêcher au cou, qui pourrait paradoxalement avec ce que je fais, mais non. C'est...
Et je suis persuadé que ça t'a apporté énormément.
Bien sûr, mais, et même aujourd'hui, quand je repense à des souvenirs de ça, c'est que des bons souvenirs, vraiment. J'adore la pêche au cou. Puis j'aimerais bien d'ailleurs peut-être faire ça avec des poissons plus gros, etc. Ramener,
comme les carpes chez moi, les carpes au drôme. Ouais, chez nous, on a des monstres au drôme avec des silures, des esturgeons jusqu'à 60 kilos. Et les mecs les prennent à la canne au cou avec des élastiques comme mon doigt.
T'en parlais tout à l'heure, mais tu vois des vidéos des Asiatiques.
C'est ça,
des énormes esturgeons, etc. Ça, c'est le genre de truc.
T'as plus qu'à tenter la GT au cou.
La GT au cou, ça pourrait être pas mal.
Alors, justement, la France organise les championnats du monde jeunes, avec notamment la discipline de pêche au cou, le 7 et 8 août en Saône-et-Loire, à Mont-Solémine, Montchanin et Saint-Laurent-d'Andenay pour les U15, U20, U25. Donc si vous êtes dans les parages début août, n'hésitez pas à aller encourager nos équipes de France présentes sur ces mondiaux. Jean, un grand merci à toi de ta présence aujourd'hui. C'était un honneur de t'avoir parmi nous.
Ben écoute, merci à toi, merci à tous. Ton émission, c'est très bien et j'espère que tu vas continuer. Et je rejoins ce que disait Théo. Pour moi, si on me demande quel est mon meilleur souvenir de pêche, ben c'est la dernière fois où j'ai vu mon antenne s'enfoncer. Et je crois que ça, c'est un moment magique que tous les enfants devraient connaître, et même les anciens, parce que c'est vraiment formidable.
Alors Jean, on te remercie, à très bientôt, et on te souhaite plein de bonnes choses pour les mondiaux qui arrivent.
Merci, ben je vais essayer de porter haut les couleurs de la France.
Allez, une breloque en plus à la maison, boum. Merci,
voilà,
à toi. Alors Jean, vous l'avez entendu, c'est le Gers. On va remonter un tout petit peu direction le Lot dans Destination Pêche. Alors, cette semaine, dans Destination Pêche, on fait un focus sur le 46, sur la région du Lot. Et pour cela, on retrouve Alexis Riem, alors qui est originaire des Flandres, à côté de chez moi, mais qui a migré là-bas il y a quelques années. Salut Alexis.
Salut JB.
Merci. Tu vas bien?
Ouais, très bien, et toi?
Alors Alexis, t'es au bord de l'eau, t'es gérant d'un plan d'eau privé, c'est ça, Carpe Expérience, sur la région du Lot. Et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui pour faire la promotion de ce beau département de pêche, c'est que tu as migré là-bas il y a quelques années. Tu viens du nord, je l'ai dit, et t'avais d'abord migré une première fois dans le sud-est, t'es parti vivre là-bas. Qu'est-ce qui t'a poussé avec ta petite femme à aller déménager dans cette belle région halieutique? Est-ce que c'est la pêche au final qui t'a fait bouger?
Ouais, c'était une des principales raisons, effectivement. Pour tout te dire, on avait programmé une session d'une semaine sur le Lot en louant un bateau cabine. Au fil de la navigation, on a découvert des paysages absolument magnifiques, un cadre de vie qui était plutôt incroyable, un calme et une sérénité aussi qu'on n'avait plus. Donc l'idée a germé rapidement, de fil en aiguille, les choses se sont mises en place de notre côté. Et puis quelques mois plus tard, on est arrivé dans le Lot-et-Garonne, près d'Agen. Magnifique département, énormément de choses à pêcher, donc un super terrain de jeu.
Alors vous êtes pêcheur, mais vous êtes aussi devenu agent immobilier sur place. Vous avez acheté une maison. C'est un peu la success story, ou c'est plutôt une love story avec la région du Lot. Il y a beaucoup de pêcheurs dans la région du Lot.
Ouais, ça pêche énormément, tout type de pêche. Beaucoup de pêcheurs viennent également de l'étranger. est une région qui offre vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités, que ce soit sur les rivières, que ce soit le fleuve, que ce soit les plans d'eau, première, seconde catégorie, le canal. C'est animé, c'est des départements qui sont animés par des fédérations, des associations, un tissu associatif qui est vraiment très très impliqué, quel que soit le type de pêche. Donc c'est vraiment une terre de pêche pour tout type de pratiquants.
Alors on a vu le poisson précédemment, la carpe, elle était faite à Saint-Cassien, j'ai reconnu l'endroit. Le Lot, pour là, on le voit derrière toi, t'es un carpiste depuis de nombreuses années. On va dire le Lot, c'est la deuxième mec après Saint-Cassien pour la pêche de la carpe. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément d'étrangers, d'Hollandais, d'Allemands qui viennent, c'est ça? Notamment sur cette rivière du Lot qui est réputée pour des gros poissons, quoi.
Ouais, tout à fait. C'est une rivière qui est très réputée. Énormément de poissons, et pour bien faire, encore une fois, voilà, les fédérations qui ont bien œuvré depuis pas mal de temps, notamment pour ouvrir quasiment toute la rivière en pêche de nuit, donc sur les deux rives. Donc ça, c'est assez remarquable, hein, de constater ça encore de nos jours, avec également tout un programme de suivi en termes de réempoissonnement. Donc on a des parcours qui sont très poissonneux. On le voit notamment sur les différents enduros qui sont organisés régulièrement. C'est de plus en plus productif. Donc on a vraiment un parcours de pêche sur le Lot en général qui est vraiment incroyable. Des très beaux paysages. On passe vraiment par des endroits qui sont incroyables, qui sont calmes, qui sont très sauvages. C'est un super cadre de pêche. On parle de la carpe, mais c'est également le cas pour le silurin.
Ouais, alors on va en parler avec Sylvain qui est avec nous. Je crois que la région du Lot 46, t'as un peu poncé là-bas, notamment les basses et les...
Plus précisément le 47 en fait.
Juste à la frontière de côté.
Ouais. C'était aux alentours de Villeneuve-sur-Lot, ouais. Sainte-Livrade, Penne-d'Agenais, etc. J'y ai passé beaucoup de temps parce que j'habitais à Toulouse à l'époque. J'avais un bateau, c'était dans le début des années 2000, donc j'allais au moins une à deux fois par semaine pêcher le Lot autour de Sainte-Livrade.
Et 46, un tout petit peu, parce que
le 46,
on a pêché
peu,
Cahors ensemble.
Cahors, effectivement.
On salue toute la fédé du 46 à Cahors, Clément et toute l'équipe.
Qui ont une école de pêche hyper dynamique et tout, d'ailleurs, qui sont une des fédés les plus dynamiques de France, je pense. Et effectivement, cette portion du Lot, que ce soit dans le 46 ou le 47, c'était fantastique.
Et je me rappelle d'une mission impossible où tu avais 5 espèces à faire, il me semble, sur la journée de carnassier.
Ouais,
donc ça prouve bien que quand même en une journée.
On avait réussi.
T'appelles Sylvain Legendre. Mais il a quand même. On est quand même capable de faire 5 espèces. Donc il y avait chevenne, silure,
basse, du brochet, du basse de la perche.
De la perche aussi, je crois. Et après, on aurait pu rajouter le cendre si on avait voulu. Mais bon, on était en plein été, je me rappelle.
C'est... Mais il y a énormément de poissons dans le Lot. Et c'est surtout une rivière.
Sauf l'usage.
Oui, bien forcément, si on suit Sylvain les conseils de Sylvain
Garza,
on va dans le mur. Mais c'est une rivière qui est assez sauvage finalement, avec énormément de bois dans l'eau. Les berges sont très peu entretenues au sens très peu anthropisées finalement. C'est assez sauvage et du coup ça fait des caches qui rendent la pêche ultra intéressante.
Il reste des vieilles écluses, pour la carpe, je sais que
c'est fantastique. Il y a énormément de bois dans l'eau et du coup il y a beaucoup d'écrevisses, beaucoup de moules, il y a de la vie quoi. Et ça rend la pêche encore plus sympa parce que c'est une pêche de précision. Même les brochets, ils sont dans les bois, dans les herbiers, etc. C'est vraiment une rivière qui est fantastique à pêcher, au moins pour le carnassier.
Toi, le Lot, Théo, tu connais en voisin, tu remontes la rivière.
Exactement, mais j'ai eu la chance de pêcher quelques fois le carnassier sur le Lot. Et c'est, moi, surtout les paysages, c'est absolument magnifique. Comme tu dis, il n'y a aucun endroit qui se ressemble. Tu as les bois immergés, les arbres qui sont dans l'eau, etc. On avait pêché surtout le Basse. Ouais. C'est relativement connu.
Magnifique population de Basse depuis des années établie.
On s'était régalé, on n'avait pas fait de gros. Bah, après, il faut savoir pêcher. On avait fait beaucoup de poissons. Et non, c'est magnifique. C'est une région qui est magnifique et la rivière encore plus.
Donc, on y mange bien.
On y boit bien.
Il fait rarement moche aussi.
Non, c'est vraiment une magnifique.
Les plus beaux villages de France sont quasiment là-bas. La Poppy et tout ça, c'est magnifique.
Il faut savoir parler hollandais parce qu'il y a quand même beaucoup de hollandais.
Ouais, il y a beaucoup de hollandais. C'est un peu comme l'Ardèche. La deuxième langue, c'est le hollandais. Alexis, c'est quand tu t'es installé avec Delphine là-bas, c'est quoi la première chose qui vous a... Parce que bon, la chaleur, le beau temps, vous l'aviez déjà à Théoule-sur-Mer, là où vous habitiez. Qu'est-ce qui a fait vraiment le déclic, la première chose qui vous a dit « Non, mais c'est ici qu'il faut qu'on s'installe et on pose nos bagages ?»
Le calme, le cadre. C'est vraiment une déconnexion, c'est un autre cadre de vie. On n'est pas dans le même espace-temps que là où nous étions auparavant. Et c'est ce qu'on cherchait, c'est ce qu'on avait besoin à cette période de nos vies, hein, tout simplement. Surtout, on venait de sortir d'une période Covid, hein, donc que tout le monde a vécu, on sait comment. Donc voilà, l'envie de déconnecter complet, d'un retour vraiment au calme, à la nature, et ça correspondait pleinement à ce qu'on avait besoin. Hein.
D'accord. Et dans le Lot, il y a aussi, je pense, il y a pas mal d'autres espèces comme des blancs, il y a plein d'espèces à pêcher, non, il me semble ?
Ouais, beaucoup. C'est vraiment un territoire qui permet de pratiquer tous les types de pêche. Je suis vraiment surpris de voir régulièrement des bateaux d'étrangers qui vont aller pratiquer le silure que ce soit sur la Garonne ou sur le Lot. Les pêcheurs de carpes, bien évidemment.
Il y a des truites sur le Lot ? Dans le Lot ? Alors, enfin, dans le département, je me doute bien que sur le Lot,
ouais, évidemment.
Ça va être compliqué.
Bien sûr.
Ouais,
sur le Lot, dans le Lot et Garonne également, beaucoup de rivières de première catégorie qui sont suivies également en termes d'alvinage par les APPMA, qui sont entretenues au niveau des abords, des accès, avec également des opérations pour amener les jeunes au bord de l'eau. Donc il y a un vrai dynamisme, quel que soit le type de pêche, c'est vraiment des territoires qui sont très axés sur la pêche, tous les types de pêche.
Bon, bah, bien vendu, Alexis. Ça nous donne envie d'aller pêcher le Lot et même carrément d'aller s'y installer. D'ailleurs, si vous cherchez une maison dans le Lot, Alexis et Delphine sont tous les deux agents immobiliers là-bas. Alexis, dans tes actus, tu as développé une appli notamment pour les carpistes, il me semble. C'est ça ? On peut en parler juste un mot ?
Ouais, tout à fait. C'est une application qui n'est pas destinée que aux carpistes, mais à tous les pêcheurs. C'est un carnet de pêche virtuel, hein, qui via une application qui s'appelle Fishing Report. Permet d'enregistrer chacune de ces captures et de toutes les conditions qui ont permis cette capture. Le gros avantage, c'est que ça prend quelques secondes et on a toutes les statistiques qui sont indiquées en temps réel. C'est des données qui sont complètement confidentielles, on peut les partager si on souhaite, mais c'est un carnet de pêche, au lieu d'écrire à la main comme le font encore certains, ça permet vraiment d'avoir son suivi en temps réel au bord de l'eau. Et si je prends un exemple concret, les phases lunaires par exemple, où on a chacun un avis sans avoir de données vraiment concrètes.
Cette application
est complètement reliée automatiquement reliée aux phases lunaires. Donc ça permet d'avoir des données réelles sur nos captures, le type de leurre, les profondeurs, etc., tout un tas de critères. Et on a également ouvert cette application, donc pêcheurs de carpes, pêcheurs de carnassiers, silures, etc. Et on l'a également ouvert pour les guides de pêche, pour pouvoir mieux renseigner, mieux suivre les clients et mieux répertorier les secteurs de pêche, et également pour les gestionnaires de plans d'eau. Donc, ce que nous sommes également, là, je suis au bord du plan d'eau qu'on a, et cette application permet à tous les pêcheurs qui vont se rendre sur le lieu d'enregistrer leur capture. Ça va remonter automatiquement au gérant qui pourra suivre en temps réel l'activité de son plan d'eau, les pourcentages de miroirs, de communes, les tranches de poids, etc., et d'avoir un réel suivi de son cheptel. Donc c'est un carnet de pêche 2.0.
Ok, eh ben, grand merci à toi, Alexis.
Merci beaucoup pour ton invitation.
Embrasse Delphine à ton émission. Merci beaucoup, Delphine, sa femme, qui est une très très grande pêcheuse de carpe. Merci à toi, Alexis, et vive le Lot. À bientôt.
À plus, bonne journée, ciao.
Allez, on attaque tout de suite la rubrique phare, faut pas se leurrer. Alors, faut pas se leurrer, bluff ou pas bluff. En fait, on raconte une histoire capillairement tractée. On avait le chef Coutenceau la semaine dernière, il sait de quoi je parle, moi aussi. Et puis, c'est un peu la rubrique préférée aussi des Marseillais. En fait, on balance une histoire et on les invités votent et les gens aussi votent en commentaire, bluff ou pas bluff, grosse escroquerie ou pas du tout. Donc là, la semaine d'il y a 15 jours, j'avais balancé que un gars avait fait 1,5 m de barre sur le premier lancer qu'il a fait avec une canne à pêche de sa vie. Alors juste vite fait, bluff ou pas bluff ?
Pour moi, pas bluff, hein, c'est totalement faisable.
Bien sûr, pas bluff.
Bon, alors on a les images en régie. Alors en fait, c'est Karim qui m'a fait... Il n'était jamais monté sur un bateau, il n'avait même jamais pêché de sa vie. Et en fait, Karim m'a fait deux barres, donc un 60 et un 50, sur un jig. Un seul jig.
Pas sur un
donc,
jig.
Ouais, comme il ne s'avait pas lancé, en fait, je lui ai mis un jig à pêcher.
Avec deux hameçons, du coup.
Avec deux hameçons dessus. Et ouais, il pêchait en vertical sous le bateau. Et à un moment donné, il me dit « Ouais, je suis pris dans le moteur. moteur. Et j'ai dit non, t'es pas pris dans le moteur. et il a remonté et il a mis et il m'a fait deux poissons, un sur chaque assist. Et puis on avait une photo aussi, voilà, pour fêter ça. Il fait pas sa prière. il est en train de vomir. Voilà. Dans la foulée, voilà,
il a eu un concentré de pêche en mer.
C'était sa première sortie de pêche tout court et première pêche de pêche en mer. Il m'a fait un beau doublé et voilà, et il a amorcé en même temps. Alors cette semaine, c'est au tour de Sylvain, notre invité, de nous trouver un bluff ou pas bluff. Apparemment, c'est un truc tonitruant. Nous sommes tout oui, Sylvain,
si
te connaissant, à mon avis, là, j'ai encore perdu des cheveux.
En Espagne, ma femme a attrapé un gitan. Au leurre.
Ah voilà, ça y est.
Quoi comme leurre on peut...
Alors, c'était un metal jig.
Metal jig.
La même chose qui a permis de faire 105
de barre,
ça a fait 105 kilos.
Un ou deux hameçons.
Alors, il y avait un seul hameçon, un gros triple.
Il y a une
seule personne, il y a un seul gitan.
Un seul gitan.
Mais okay. De plus de 100 kilos.
Plus de 100 kilos, donc 1,80 de gitan, quoi.
Ah non, ça peut faire 1,60
m. Ah ouais,
ouais.
À Lopez. Ça y est.
Tu vas pas te faire des copains. Moi, j'ai pas de problème avec. Je souhaite pas en avoir. Mais elle a attrapé effectivement un gitan.
Donc, madame Gendre est spécialiste de la pêche au gitan. Pas GT, gitan. Gitan au triple. Mais moi, je dis bluff. Ça bouge quand même, hein. Faut le mettre à
relâcher ou pas ou...
Alors nous on était en bateau et lui était du bord.
Alors bluff ou pas bluff?
Moi j'ai envie de dire pas bluff.
D'accord. Pas bluff.
On gagne un truc ou pas?
La réponse dans 15 jours. Allez, on passe tout de suite direction l'atelier, on va parler technique. Alors dans l'atelier aujourd'hui, au niveau technique, on va pas parler de la pêche au gitan, on va parler de la pêche en surface, notamment au leurre de surface, parce qu'on arrive avec cette saison estivale et les beaux jours. Et pour nous parler de pêche en surface, on a un spécialiste avec nous sur RMC aujourd'hui, c'est Clément Bigot from Cherbourg. Salut.
Salut les gars.
Ludovic, pardon, j'ai appelé Clément. Ludovic. Clément, parce qu'on en connaît un autre, mais Bigot. C'est pour ça. Ludo, tu vas bien?
Ça va et vous?
Bah ouais, tu nous appelles du Cotentin, c'est ça?
C'est ça, tout à fait. La Cherbourg, quoi. Cherbourg-Cotentin.
Cherbourg. Et du coup, toi, en fait, t'es un pêcheur du bord toute la saison au bar, notamment dans les rochers des pointes aux alentours de Cherbourg, et notamment tu pêches énormément au leurre de surface. Et en fait, la question du jour, c'est est-ce que le leurre de surface, est-ce que bon, que ce soit pour le bar ou pour d'autres espèces, est-ce que le leurre de surface, c'est un leurre printanier ou estival. Donc toi, par rapport au bar, par rapport à la pêche en mer, on a eu des discussions plusieurs fois sur les réseaux, tu m'as dit que tu étais de moins en moins sûr que ça soit justement un leurre de surface, ça soit un leurre d'été. Est-ce que tu peux en dire plus de ton expérience, toi qui es quasi tous les jours dans les rochers?
Bon, pas tous les jours, mais on va dire qu'en début de saison, j'y suis assez souvent. Et oui, en fait, j'ai l'impression qu'on était plein de certitudes avec le leurre de surface. Et en fait, depuis quelques années, je m'aperçois que, en fait, je prends du poisson toute la saison avec quoi. C'est-à-dire que ça peut très bien aller jusqu'à fin janvier et redémarrer mi-mars, début avril et reprendre du poisson comme si on était avant en plein été quoi. Donc,
d'accord.
Donc, là-dessus, j'ai pas de.
Parce que le problème du leurre de surface, c'est qu'il faut avoir le mental pour le mettre et se dire, voilà, au mois de janvier, tiens, je vais faire un poisson.
Ou tu fais comme The French Fisherman et tu vas chercher l'été à toute saison.
Voilà. Comme Théo a l'avantage, c'est l'été tous les jours chez lui. À part quand il est à Bordeaux. Parce qu'à Bordeaux, il pleut tout le temps.
Il pleut un petit peu.
Un petit peu, voilà. Du coup, tu sens quand même qu'il y a une période quand même un peu plus creuse pour les leurres de surface ou vraiment ça pourrait. C'est juste que tu vas un petit peu moins à cette période de l'année au bord de l'eau?
En fait, alors moi je parle pour ma part de pêche au beurre. Je ne sais pas si ça sera le même principe pour la pêche en bateau. Donc moi ça va être des zones qui sont entre 50 cm et on va dire 3-4 mètres de profondeur. Donc je pense que ça a peut-être son importance aussi.
Même l'hiver.
Mais non. Même l'hiver, oui, même l'hiver. Et en fait, moi, enfin, ça m'est arrivé de prendre des poissons au leurre de surface, presque, je n'ai pas envie de dire par tempête, mais vraiment dans la mer blanche, et il n'y a pas de souci, ça monte même en hiver, quoi. Donc, mais ça, c'est dans peu d'eau. Donc, après, je pense qu'il y a peut-être aussi une notion de, peut-être plutôt de taille de leurre de surface à prendre à l'époque, du coup. Puisque moi, je pêche, enfin, quand je pêche en fin de saison et en tout début de saison, je pêche quand même avec des leurres relativement grosses, c'est-à-dire que je pêche souvent avec un 130, quoi.
D'accord,
donc,
ouais. Donc
je pense que déjà ça.
Donc
ça c'est
déjà une certaine théorie justement sur cette pêche aux leurres de surface. Tu mets plutôt des leurres un peu à 130, c'est déjà. Donc c'est quoi, tu conseillerais quoi de l'hiver, de pêcher plus petit ou plus gros ou?
Eh ben, moi, l'hiver, ça serait plutôt plus gros. Et puis, du fait que, alors, bon, déjà, niveau Cotentin, niveau soleil, bon, voilà, on en a, mais c'est pas tout le temps.
C'est un peu comme Bordeaux, quoi.
Et donc,
une boule de feu dans le
ciel. Une boule de feu dans le ciel, une fois par an.
Voilà, c'est ça. Donc, on a souvent un ciel bas, et j'ai remarqué quand même que les leurres opaques faisaient la différence. Donc, ça serait plutôt gros leurre à leurre opaque, quoi.
D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais de profondeur. Tu pêches au leurre de surface, notamment le bar, uniquement dans maximum 3 mètres d'eau. Est-ce que tu penses que aussi la profondeur, ça peut aussi jouer par rapport aux conditions climatiques et notamment aussi aux températures d'eau entre l'hiver et l'été? C'est-à-dire que plus c'est. L'hiver, quand il fait vraiment très froid, tu les pêches vraiment dans peu d'eau ou tu penses que même dans 3, 4, 5 mètres, ils peuvent encore monter?
Bah après moi l'hiver moi c'est plutôt des postes dans peu d'eau en fait la plupart du temps ils viennent s'approcher du bord quand ça brasse un peu donc je les pêche vraiment dans peu d'eau quoi. Les meilleurs postes j'ai envie de dire c'est moins de 2 mètres. C'est vraiment dans les premiers rouleaux quoi.
Ouais. Et donc après, dans toutes les conditions de météo même par grand vent
Ah oui, ça me fait pas peur. Après, il faut trouver le modèle qui soit capable de tenir
ouais,
sur l'eau.
Mais dans 2 mètres de creux.
Bah c'est ça, oui. Bah faut un leurre qui s'aplatisse bien sur l'eau, quoi, qui soit pas trop léger et puis qu'on puisse animer correctement. Mais oui, honnêtement, j'ai été surpris. Hein. C'est vrai qu'on était, on avait l'habitude de dire, on pêche par eau claire, on pêche voilà, beau temps et compagnie. J'ai pris des poissons au leurre de surface dans des conditions de mer qui étaient mer complètement laiteuse et agitée, ça monte quand même et pas un poisson par erreur quoi, ça monte ouais, des fois 2-3 ouais. Poissons dessus quoi.
Après ils sont pas forcément tous plaqués au fond hein.
Bien sûr, ouais,
tu
c'est
peux
sûr.
Avoir 10 mètres d'eau avec des poissons à 2 mètres sous la surface et pour le coup ils sont pas loin du leurre.
C'est sûr. Et juste Ludo, les conditions de marée aussi, c'est quoi ton moment privilégié de marée, notamment du bord dans les rochers par chez toi? Est-ce que vous avez des courants, c'est comme chez nous, c'est des courants de malades quoi?
Bah ça après il y a pas vraiment de marée de moment de marée en fait, c'est on va s'adapter surtout au poste, hein. t'as des postes qui sont très bons à marée basse, des postes qui sont très bons à marée haute, c'est surtout une hauteur d'eau qu'il faut rechercher quoi, c'est les courants qui se forment derrière une pierre qui se recouvre ou qui se découvre, c'est on va surtout chercher ça quoi, en fait on cherche le courant et l'idéal c'est pardon. Quelque chose qui marche très bien, par exemple, c'est un endroit où on arrive à trouver des vagues qui s'éclatent sur une dette et pêcher le blanc qui est juste derrière. Bien souvent, ils sont là. Quoi. On les pêche vraiment
quoi,
dans
toi,
le blanc à l'abri. Quoi.
C'est quoi, toi, vraiment le meilleur mois de l'année pour toi pour pêcher le bar en surface?
Bah moi j'ai envie de dire que moi ça serait plutôt alors pour ma part hein, ça serait plutôt tout début de saison et à partir du mois de novembre moi c'est je pêche un petit peu à l'inverse des
ouais.
autres quoi.
Moi je commence au mois de juillet pour finir au mois de mars. Toi Théo qui pêche tous tes gros poissons beaucoup en surface, ouais. Un peu au jig mais t'en fais pas mal en surface. Est-ce que toi alors forcément dans les pays où tu vas c'est de la
ça
pêche
compte pas trop, on peut parler plus en France, ouais. C'est un petit peu plus représentatif. En fait, tu remarques vite quand tu pêches en mer, surtout, parce que là, je vais scinder vraiment la mer et l'eau douce, qui pour moi, c'est très différent sur l'activité de surface. Ça, pour moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, ça n'a absolument rien à voir avec la saison. Ça va être sur quoi les poissons se nourrissent. Et comme tu disais, si les poissons, ils sont un mètre sous la surface, tu vas leur envoyer en mer en tout cas, les poissons, exactement, peu importe la saison. Malheureusement, en France, on n'a pas le droit de pêcher le thon toute l'année. Mais si on avait le droit, le leurre de surface fonctionnerait très bien toute l'année. Vu qu'on peut le pêcher qu'entre juin et novembre, forcément, on a l'impression que ça marche qu'entre juin et novembre, mais ça marche toute l'année. Je l'ai vu dans d'autres pays où j'ai pêché du thon avec des eaux très froides, ça ne change littéralement
absolument rien. En fait, c'est la température d'eau qui va positionner le poisson fourrage,
lié au positionnement du poisson fourrage, lié à la profondeur, forcément. Hein, s'il y a 2 mètres d'eau, ça va être beaucoup plus simple de pêcher au leurre de surface. Mais pour moi, en tout cas, en mer, ça n'a absolument rien à voir avec la saison. C'est lié vraiment comment les poissons se nourrissent et où. Ou alors, enfin, tu pourrais
nous
en parler.
Mer, effectivement, comme t'as des, ils ont tendance à pousser les poissons vers la surface.
Bien sûr.
Et du coup, la pêche de surface, elle ressort souvent parce que en eau douce, c'est beaucoup plus éclaté avec des caches pour les poissons où ils peuvent se réfugier. En mer, ils ont que la surface vers où monter.
Justement, c'est ça. Ils essaient à tout prix de bloquer les poissons contre la surface, donc ça revient souvent. Et d'ailleurs, tu pourras nous en parler, mais l'eau douce, ça n'a absolument rien à voir.
Alors justement, l'eau douce, Sylvain.
Je pense qu'une capture est possible toute l'année au leurre de surface. Après, effectivement, ça marche quand même mieux quand l'eau a chauffé et que les poissons sont concentrés sur les zones peu profondes. Si on parle de brochets, de perches, de basses, qui sont grosso modo les 3 espèces...
Alors Sylvain a une petite particularité, c'est qu'il fait des cendres en surface.
Alors moi, ça m'est arrivé, j'ai fait dans ma vie 3 cendres au stickbait. Ouais.
Voilà. Château Mireille, voilà, vous
c'est
la connaissez ça, maintenant.
Il faut avoir un peu de réussite là, dans ces conditions. Mais ouais, ça arrive et c'est plutôt en général dans les eaux un peu chaudes. Ça peut marcher dès l'ouverture parce que les eaux ont un peu chauffé. Notamment les basses, les brochets vont chasser comme ça. Les perches, ça démarre traditionnellement un peu plus tard, août-septembre. Mais ça peut se prolonger jusqu'en novembre sans problème. Et après, quand les poissons naturellement reprennent une position plus profonde, qui désertent un peu les bordures, bah là, pour le coup, la surface au milieu de rien, c'est pas idéal en eau douce.
C'est quoi, toi, le maximum de profondeur où tu as vu des poissons monter au sondeur? Moi, j'ai déjà vu des thons 15, 20 mètres, 30 mètres monter comme des fusées.
Là, typiquement, en février, où j'étais en Caroline du Nord, aux États-Unis, il n'y a pas du tout d'activité de surface. Il faut savoir que le thon, quand on le pêche, c'est principalement, on les voit.
Oui.
Là, en fait, on sait qu'ils sont sur une zone, on les marque au sondeur et on arrive à les faire monter de 45, des fois 50 mètres.
Ouais. Ils entendent ça les énerve.
Alors, ils entendent ou est-ce que des fois, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais des fois, on se retrouve pendant 3-4 heures à poncer dans le vide parce qu'ils sont dessous. Ils prennent pas au jig et on peigne et d'un coup, quand ça veut...
Ça finit par monter.
Mais des fois, 40, 45 et plus. C'est pas... Ça monte pas bien, hein, généralement.
Et pour l'eau douce, tu vois, même un poisson qui se pêche à 90% en surface comme l'aspe, les mecs qui sont vraiment spécialistes de poissons, l'hiver, ils finissent par les pêcher au leurre souple parce qu'ils montent.
Mais
plus.
Bien sûr, il y a ce côté en eau douce où les poissons, vu que leur métabolisme se ralentit, ils sont beaucoup plus léthargiques et faire l'effort d'aller exploser un leurre en surface est beaucoup plus coûteux.
Alors on va parler juste leurre vite fait. Ton leurre de prédilection, toi, c'est tu préfères plutôt stick ou plutôt popper, grosse plage ou plutôt walking the dog?
Je suis passé récemment plus. Alors en mer, c'est plus popper, on va dire le Graal, avoir une grosse attaque au popper. Moi, je suis passé récemment plus sur le stick bait. C'est un petit peu plus fin et justement, on va déclencher les poissons un peu qui peuvent être plus compliqués. Donc j'aime bien. Je suis stick bait là. Je te dis gros stick bait.
Toi, Sylvain?
Stick à 99%, beaucoup plus polyvalent.
Que popper.
Pour nouveau, tout, je me réserve à l'eau douce pour laisser la mer à Théo. C'est surtout quelque chose qui permet d'accélérer très fort tout en conservant une vraie action. C'est-à-dire un popper, accélérer très fort un popper, c'est compliqué en eau douce. Par exemple, pour les perches, si tu dois accélérer beaucoup, un stick est beaucoup plus polyvalent, il va déraper en surface, il va rester pêchant. Et à l'inverse, c'est un leurre qu'on peut pêcher très doucement. Par exemple sur les brochets, c'est parfois le cas où tu peux lui faire des écarts, des pauses, alors tu peux faire une pause avec un popper évidemment, mais je trouve que le stick a plus d'attractivité et plus régulier en eau douce que le popper.
Et toi Ludo, c'est ton leurre de prédilection comme ça quand tu pêches en surface notamment l'hiver, tu taxes plutôt ton choix par rapport à ce qui va nager dans les conditions de mer et à la bouffe, ou t'as quand même des petits leurres que tu préfères utiliser, popper, stick comme on le disait?
Non, moi ça sera pareil, hein, ça sera surtout stick. Après, dans les grosses conditions, on a un leurre aussi qui est un petit peu un hybride, qui tient bien la mer. Là, ça va surtout être pour rechercher les distances de lancer et puis chercher quelque chose de lourd pour que ça s'accroche bien. Après, moi, ce que j'ai remarqué cette année, j'ai quand même plusieurs sorties où j'avais trouvé des poissons. Et quand je trouve les poissons, bah, j'aime bien faire tourner un petit peu la boîte pour voir un petit peu ce qu'ils prennent, ce qu'ils ne prennent pas. Et j'ai des sorties, si je n'avais pas eu de surface, je n'aurais pas pris un poisson, même au tout début de saison. C'est-à-dire que j'avais des poissons qui montaient, qui réagissaient très bien sur un stick. Tu passais sous la couche d'eau, tu passais un minot, tu n'avais pas une touche. Et tu repassais en surface et ils éclataient la surface pour venir prendre le stick. Donc je pense quand même qu'il y a le côté agacement aussi quand ils sont regroupés. Je pense que c'est peut-être plus facile de les faire monter sur un leurre de surface que sur un minot où ils chercheraient une proie en particulier, quoi. Je pense qu'il y a vraiment le côté agacement qui joue.
D'accord. Et pour les débutants, le mouvement walking the dog, est-ce que vous pensez qu'il doit être parfait, lent, ce genre de choses, ou des fois juste ramener un peu, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué pour les débutants.
Ça dépend forcément des conditions, en fait. Il y a des fois où la vitesse va être le facteur numéro un, et pour le coup,
le truc, il nage
même
n'importe
si
comment,
c'est désordonné, et... même si c'est, voilà, s'il y a de la compétition entre les poissons, donc s'il y a des bancs, notamment sur les perches, hein, c'est surtout à ça que je pense, et ben un mouvement désordonné n'est pas très grave dès l'instant où elles vont le prendre en chasse et où il va y avoir une compète entre elles. Si la nage n'est pas parfaite, on s'en fout pas mal. Ouais.
Et notamment ouais. En exo, moi je sais que j'ai déjà, au thon, on m'a déjà dit souvent que je popais trop fort, je faisais trop de bruit, alors qu'ils marchent plutôt sur les carangues, oui. Mais sur les thons, est-ce que on va dire, la pêche au pop, c'est pas que faire plof plof, c'est beaucoup plus technique qu'on ne le pense suivant les espèces.
Complètement, alors selon les espèces et selon la pression de pêche, ça joue beaucoup. C'est pour
aussi.
Ça que justement, en exo, sur des destinations où il y a une grosse pression de pêche, le stick bait, tu vas avoir de meilleurs résultats. Parce que ça va être beaucoup plus discret. Alors c'est bien justement si tu arrives à coupler, tu es plusieurs à pêcher, tu as les mecs qui pêchent au pop, ça va attirer les poissons, mais ils vont se dire, ce bruit, je l'ai déjà entendu, et ça fait pas bon quand j'entends ce bruit. Donc justement, c'est pour ça, même chez nous en France, parce qu'il commence à y avoir de plus en plus de pêcheurs, il commence à y avoir pas mal de pêcheurs qui pêchent le thon, et des stick bait, là où beaucoup de monde ont du résultat sur les poppers, et ben ça peut justement venir déclencher ces
et
poissons.
Et l'étape supplémentaire, c'est les sticks coulants qui eux ont pêché un peu en dessous de la surface.
Subsurface
et il y a des fois où les poissons juste veulent pas éclater la surface ils vont prendre sous l'eau comme ça.
Exactement.
Et sur les grosses carangues, c'est redoutable.
Ça, exactement, ça marche très bien. Et pour rebondir juste sur ce que tu disais, que ce soit en mer ou en eau douce, l'aspect compétition fait que c'est ce qui va. Si c'est la pêche est un peu difficile, c'est ce qui va tout de suite. Enfin, ça va faire le.
Et du coup, la vitesse, elle est souvent décisive dans ce cas-là. Parce qu'une proie qui s'échappe, va y avoir un
effet de panique.
Ça déclenche.
Et messieurs, bille ou pas bille alors du coup ? Parce qu'on parle stick, on parle popper. Est-ce que là, on utilise de plus en plus des leurres silent, justement, où il n'y a plus ce phénomène de bille, de maracas
Ça dépend encore une fois des conditions. C'est-à-dire que, je ne sais pas, l'exemple de Ludovic, là, une mère qui brasse, qui est avec. Où on a envie que le poisson repère de loin et un signal qu'il le fasse repérer le leurre dans une mer agitée, par exemple, pourquoi pas mettre des billes. Ouais.
Bon, ça fera un autre débat,
après,
leurre
des conditions
billes acier,
plates,
billes vert, parce qu'après, voilà, on rentre dans des détails, on l'avait déjà vu sur les perches notamment, elles voulaient des sons beaucoup plus sourds, alors qu'on avait des leurres plutôt cristallins.
Bien sûr, par exemple, sur les sticks, un stick avec un son sourd, une seule grosse bille, ça a tendance à trier les belles perches,
ouais,
à les faire venir
de
plus loin. Et c'est sûr que, bah, par exemple, pour revenir sur le côté leurre hybride dont il parlait, il y a le Rattling Pop chez Salmo que j'aime beaucoup, qui est un popper qu'on peut animer en
aussi
Walking
the Dog.
Et le fait de faire 2-3 pops un peu sourds, suivi d'un petit Walking the Dog un peu discret, bah souvent ça marche très bien. Il y a un pop qui appelle le poisson, mais il n'est pas effrayé par un truc qui ravage la surface et qui fait énormément de bruit. Et il va venir se saisir d'un truc un peu, finalement, un peu discret, quoi.
Ok, Ludo. Alors toi, c'est plutôt bille ou pas bille, alors du coup ? Tu mets des billes l'hiver quand la mer est démontée dans la mousse, c'est ça, pour finir ?
Alors, souvent c'est billes, mais j'ai remarqué aussi, enfin j'ai le leurre que je parlais tout à l'heure qui se lance très loin et qui tient bien la mer, il est silencieux et ils viennent l'intercepter même par grosse mer, donc c'est des machines hein, ces poissons-là, ils arrivent
ils détectent tout comme les
sardines. Ah ouais, c'est impressionnant, hein, même un leurre silencieux dans le bouillon, ils viennent le prendre quoi.
Ils sont un peu plus affûtés que nous.
Ouais, c'est clair.
Nous, on loupe nos clés sur la commode. Et... eh ben, merci Ludo, merci à toi. Très bonne saison à toi.
Merci à vous. Merci de même et puis à bientôt.
À plus, à ciao bord de l'eau. Alors on aime les belles histoires sur RMC et c'est aussi votre moment. On se retrouve tout de suite au bout du fil. Alors aujourd'hui, on a une belle histoire, une vidéo qui nous a été envoyée par Younes, qui en fait, le jour de l'ouverture, est allé pêcher le broc. On a les images et en fait, son coup de ligne un peu exceptionnel qu'il a voulu nous raconter, c'est qu'il a pris un cendre de 90, donc il a dû prendre une belle cartouche, on le voit sur les images, dans le 78, dans les Yvelines, sur la Seine. Donc ça, c'était la grosse surprise. Donc bravo Younes, on lui offre un moulinet que Arnaud nous a ramené, notre partenaire Okuma, et voilà, on le remercie. Bravo, super coup de ligne qu'on voit sur les images. En plus, il était pas non plus. Ça vous est déjà arrivé un coup de ligne comme ça? Les deux, c'est très dissipé là. Il est temps qu'on les relâche.
Pardon de prendre un cendre du bord. Oui.
Un cendre, non mais un cendre aussi gros comme ça, en pêchant une autre espèce, notamment un brochet comme ça à l'ouverture.
Il y a toujours des surprises, mais un poisson si gros, sans le chercher, non, pas vraiment.
Même en
non.
le cherchant, un cendre de 90.
Ah, c'est un poisson extraordinaire.
J'ai jamais fait moi de cendre aussi gros. Mais
T'as déjà eu des coups de ligne comme ça, mémorables? Si t'as un coup de ligne à nous raconter, toi, en exo dans tes voyages ou même en France.
C'est, je pense, le plus.
Il n'y a pas de moulinet à gagner pour toi. C'est Younes qui l'a gagné. On le voit à l'image, le magnifique cendre.
Non, coup de bol en Arabie Saoudite, justement, en pêchant la GT du bord. J'ai fait en plus le premier jour un espadon voilier. Pour ceux qui savent, c'est un poisson qui a. Mon Dieu. C'est un poisson qui vit, un poisson pélagique qui vit au large. Et bien donc, gros coup de bol de pouvoir faire
donc
ça.
Donc, tu l'as pris dans pas d'eau, du coup.
Alors, justement, ça tombe. C'est un riff qui tombe à 100 mètres de fond dès le... C'est une cassure.
D'accord. Pardon. C'est compliqué de travailler avec Sylvain Lejeune. Je travaille avec lui, je sais que c'est une vérole.
Ah, c'est terrible.
Alors toi, t'as un coup de ligne comme ça, non? Tu peux nous en donner un
Des coups de chance.
Ah, ouais, des coups de chance, j'en ai vu plein avec toi sur une mission impossible. Notamment une truite sur la Tamise. Je me rappelle d'un tournage, on avait été en Angleterre. Et en fait, il pêche au chatter juste au-dessus d'un barrage. Et en fait, le gars nous dit non, il n'y a plus de truites, elles sont toutes mortes dans la rivière. Il y en a, mais alors à des kilomètres et des kilomètres. Et on est au-dessus du seuil. Et il balance son chatter comme ça, et là il pensait prendre un brochet maîtré, la truite se branle dans des trucs et tout, on savait pas que c'était une truite, et au final c'est une truite de 70 cm,
un peu plus de 60,
j'ai dû le déposer en bateau sur un espèce
de drôle, c'est que voilà, j'ai dû sauter
flottante.
Sur la bouée du barrage parce qu'elle avait fait le tour de branches, etc. Donc Morel s'est retrouvé tout seul dans mon bateau au milieu de la Tamise sans vraiment savoir comment venir
et moi
chercher.
Je savais absolument pas piloter ce bateau, donc c'était voilà, c'était encore une belle histoire comme on adore sur RMC. Bah les gars, c'est déjà la fin, messieurs, qu'est-ce qu'on peut vous te souhaiter, Théo?
Eh bien, écoute, de la chance.
Alors, des coups de soleil, gros pas poisson, trop, mais te fais pas un claquage.
On va essayer, pas se blesser. Continuer dans la lignée.
D'accord, et puis encore quelques milliers d'abonnés sur la toile. Donc, The French Fisherman sur les réseaux, allez voir ça. Il y a des magnifiques poissons et des super films. Ta chaîne,
c'est The French Fisherman,
comme sur
Instagram. Exactement.
Qu'est-ce qu'on te souhaite, Sylvain?
D'avoir un peu de temps pour aller sur l'eau.
Pas de crise de goutte.
Un peu de temps pour aller.
J'ai essayé de durer un peu. Il faut que je dure un peu et que j'ai du temps pour aller sur l'eau et tout ira bien.
Bon, et puis plein de business.
Aussi.
Bonne continuation de saison à tous. Comme d'habitude, les 5 lettres. Ciao, bye bye.